Testament pour vous en ce moment, surtout en ce qui concerne l'implantation d'église à Louvain-la-Neuve, parce que nous avons été honnêtement étonnés par votre soutien ces derniers temps et pour tout votre encouragement jusqu'à là dans le projet. Nous avons vu votre souci de nous rendre visite, alors merci à celles et ceux qui nous avons rendu visite, de donner un coup de main lors de nos événements récemment pour Noël, par exemple pour la fête pour les enfants, de donner financièrement et aussi de prier pour nous. Alors merci de tout cœur de la part de toute l'équipe. Je dis toute l'équipe, on est que sept, mais merci beaucoup de la part de nous sept pour votre soutien, partenariat précieux dans l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons nous pencher encore une fois sur la question de Noël, mais un peu différemment. Nous allons voir à partir de l'Ancien Testament pourquoi il fallait que le Fils de Dieu devienne homme à partir du psaume 8. Et nous allons voir que la raison pour le Sauveur, né dans une étable il y a 2000 ans, c'est à cause d'une promesse que Dieu a faite au tout premier homme dans le jardin d'Éden. Alors merci de tourner au psaume 8 dans vos Bibles, si vous en avez, à la page 545 pour les Bibles sur vos chaises de l'église, si vous en avez. Moi, je lis ici de la version Colombe, mais c'est assez semblable. Le psaume 8. Et avant de lire, nous allons prier ensemble. Prions. Merci, notre Père céleste, en effet, pour le soutien de cette Église envers l'implantation à Louvain-la-Neuve. Merci pour ton œuvre dans la vie de cette Église, la puissance de l'Évangile qui transforme. Façonne ton peuple pour vouloir servir ton Fils. Nous prions pour ton aide. Maintenant aussi, notre Père, que tu nous encourages par ta parole de voir plus clairement qui est ton Fils et la magnificence de ses œuvres salvatrices. En son nom, nous te le demandons. Amen. Lisons ensemble le psaume 8. Au chef de cœur, sur la guttite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes yeux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une statistique frappante pour commencer. Selon un sondage récent, 89% des jeunes Européens entre 16 et 29 ans pensent que leur vie n'a pas de sens. 89% des jeunes Européens pensent que leur vie n'a pas de sens. Le même sondage a trouvé que l'Européen moyen passe plus qu'une demi-heure chaque jour en train de rêver à une autre vie. N'est-ce pas étonnant? Il y a une crise dans notre société, surtout parmi les prochaines générations. On ne trouve pas le sens de nos vies. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le sens à nos vies? Est-ce que c'est si difficile que ça d'en trouver le sens? Peut-être parmi nous, ce matin, après tous les fêtes, la joie d'être en famille avec les amis et le bonheur de Noël, après tous ces hauts, nous nous trouvons encore une fois dans les bas. Et nous posons exactement la même question que auparavant. Mais pourquoi j'existe? La vie, c'est quoi? C'est évidemment une question tellement importante. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais à vrai dire, on commence à s'éloigner de plus en plus de la réponse biblique de génération en génération. Ce matin, en tout cas, nous allons voir la réponse biblique ensemble à partir du psaume 8. Ce psaume, nous allons voir, va nous aider non seulement à comprendre le présent et le monde sous nos pieds, mais nous allons nous... Ce psaume va nous pousser à regarder vers l'avenir et nous donner même le sens de l'éternité. Voyons ce psaume ensemble alors. Dans les trois premiers versets, nous voyons les bouches des bébés qui bouleversent. Les bouches des bébés qui bouleversent. David commence au verset 2 avec une exclamation. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est quelque chose qu'il répète à la fin du psaume, au verset 10. Ceci donc semble être le point essentiel à capter ce matin. Le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre. Mais la question est, comment est-ce que le nom de Dieu est magnifique? Est-ce que le nom de Dieu est magnifique dans ce qu'il a créé? Et on lit pas mal dans ces versets, n'est-ce pas, sur ce que Dieu a créé, dans la splendeur de l'univers. Ou est-ce que le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre, dans le sens qu'il est magnifique parmi toutes les personnes qui habitent toute la terre? Magnifique dans ce qu'il a fait, ou magnifique dans ce qu'il a donné aux hommes? Nous allons voir. Parce que le verset 2, la deuxième moitié du verset 2, parle du fait que Dieu a établi sa majesté au-dessus des cieux. Les cieux, dit David, l'auteur de ce psaume, les cieux montrent que Dieu est majestueux. Mais ce n'est pas tout. Il continue. Tout d'un coup, nous lisons verset 3. C'est bizarre, n'est-ce pas? Nous lisons à propos des tout-petits. La grande des cieux aux enfants. Verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé la force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Waouh, à première vue, c'est bizarre, n'est-ce pas? Par la bouche des enfants, tu as fondé la force à cause de tes adversaires. Mais dans quel sens, David, est-ce que les nourrissons font peur aux adversaires même de Dieu? Nous avons quelques enfants parmi nous, pour l'instant, dans ce projet d'implantation. Je pense les enfants sont aussi nombreux que les adultes en ce moment. Lou et moi, ma femme, nous avons un fils de 6 mois qui est avec nous, Samuel. Alors, le petit Sam, il est tellement sage, très souriant. Il est sans doute le plus calme dans la maison, à vrai dire. Il regarde avec une grande sourire tout le chaos qui l'entoure constamment. Mais c'est juste drôle d'imaginer que lui, petit Samuel, avec ses 6 mois, peut faire peur à quelqu'un. Je pense pas, même un papillon aurait peur de lui. Mais de lire ici, verset 3, que lui peut faire peur aux adversaires de Dieu. Dieu a fondé dans la bouche des tout-petits, comme petit Samuel, la force pour imposer silence, littéralement pour détruire les ennemis. David dit ici, et c'est important pour nous de comprendre cela, pour comprendre le sens de la vie, mais il dit, dans les enfants, il y a quelque chose qui, même par leur murmure, leur babillage, ils suscitent des frissons chez les adversaires de Dieu. Il ne semble pas qu'il y a quelque chose qu'ils disent dans leur murmure, ça ne semble pas être le cas, mais est-ce plutôt dans ce qu'ils sont? Justement parce qu'ils sont des nourrissons, c'est-à-dire des êtres humains. N'est-ce pas plutôt leur identité qui fait bouleverser les ennemis? Les bouches des bébés qui bouleversent. Alors, après ces trois premiers versets, je pense qu'on est censé avoir beaucoup de questions. L'auteur veut nous surprendre avec cette image pour nous réveiller. Il y a un message important à propos des êtres humains, à propos du sens de la vie, un message important pour notre société actuelle. Et heureusement, tout deviendra plus clair dans la deuxième moitié du psaume. Nous trouvons les réponses au verset 4 à 10. Les quatre versets 4 à 10 ont le même schéma. Ils commencent avec la grandeur des cieux, comme les versets 2 et 3. Et puis l'auteur fait le contraste avec le plan de Dieu pour nous, pour les êtres humains. C'est notre deuxième point. Parce que les pieds des personnes vont prédominer. Les bouches des bébés qui bouleversent parce que les pieds des personnes vont prédominer. L'avantage de vivre à Louvain-la-Neuve, juste au cas où vous voulez une raison de plus pour rejoindre le projet, c'est que le soir, on peut voir, et oui les amis, les étoiles. Quand on vivait à Skarbek l'année passée, quand tu pensais que tu voyais une étoile qui brillait dans la distance, je voulais montrer ça aux enfants, je les ramenais sur le balcon. En fin de compte, vous savez ce que c'était? C'était le 19h30 qui va bientôt atterrir à Zaventem. Mais à Louvain-la-Neuve, on peut sortir la nuit, même hier soir, pour voir, contempler la splendeur des cieux, le vaste univers que Dieu a créé. Est-ce que vous savez, par exemple, quelques statistiques pour les scientifiques parmi nous? La planète Jupiter est 1300 fois plus grande que notre Terre. 1000 fois plus grande. Le Soleil est 1 million fois plus grande que notre Terre. Est-ce que vous pouvez imaginer 1 million de notre Terre? Si on réduisait la taille de notre Terre à une balle de tennis ici, et si on garde les mêmes proportions, alors voici la Terre, le Soleil sera à quelle distance de la balle, pensez-vous? C'est frappant, mais il serait à 8 km de la balle de tennis, avec les mêmes proportions. Plus loin d'ici que Anderlecht, apparemment. Dernière statistique pour vous, c'était nouveau pour moi. Il existe une étoile dans notre galaxie qui s'appelle le UY Scuti, qui, avec les mêmes proportions, avec la Terre comme balle de tennis, elle ferait, écoutez bien, elle ferait 13 km de largeur. 13 km de largeur avec les mêmes proportions. Ça veut dire, si vous avez écouté la statistique avant, cette étoile est plus large que la distance entre la Terre et le Soleil. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle étoile? Ça, c'est juste notre galaxie. On estime qu'il y a 2 trillions d'autres galaxies. Il y a plus d'étoiles dans notre univers que de graines de sable sur notre Terre. Alors, ça, c'est juste quelques statistiques. Mais quand on réfléchit, on commence à réfléchir sur la grandeur de l'univers, je pense qu'on comprend David et ses sentiments au verset 4 et 5. Il dit, verset 4, « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Tout comme au verset 2, cette deuxième partie du psaume commence avec les cieux. Dieu comme créateur qui a placé sa majesté au-dessus des cieux. David pense à combien l'univers est époustouflant. David contemple cela et il conclut. Mais qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? En comparaison avec l'univers, nous sommes tellement, tellement petits. Vous et moi, nous sommes tellement insignifiants. Plus d'étoiles que graines de sable sur notre terre. Nous sommes en fin de compte de très très petites créatures, fragiles et petites. Mais voici le choc pour David. C'est qu'en regardant notre petitesse, ça nous aide à apprécier davantage la grâce de Dieu envers nous, la bonté de Dieu, verset 5, qu'il se souvient de nous. Le Dieu de cet univers immense a pensé à nous tous. Dans quel sens est-ce que Dieu se souvient de nous et prenne garde à nous? La réponse se trouve au verset 6 et 7. Et c'est extraordinaire. Nous lisons verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Non, nos yeux ne nous trompent pas. C'est dans la parole de Dieu. Il est écrit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Notre Dieu qui est immortel, créateur, infiniment sage, infiniment bon, a décidé de donner le privilège, la responsabilité de dominer sur tout ce qu'il a créé, non à lui-même, il aurait pu faire ça. Mais quelle grâce! Il a donné ce privilège, cette responsabilité à nous, à l'humanité, à nous, ces créatures, qui ne sont pas infiniment bons ou infiniment sages. Quelle générosité! Quelle grâce de la part de Dieu, non seulement de penser à nous, mais de nous donner, on peut dire, une place primordiale, une place centrale dans l'univers. Nous sommes en train d'apprendre ici que Dieu a fait une promesse très très importante à l'humanité, une promesse qui date depuis le commencement, depuis Genèse, avec Adam. Dieu a fait une promesse que nous, les hommes, les femmes, nous allons régner sur les œuvres de Dieu. Et donc, je pense que ça nous aide maintenant à comprendre ces versets 1 à 3 qui sont assez difficiles. Pourquoi la bouche des bébés bouleverse les ennemis? Parce que, versets 4 à 10, car Dieu a donné aux êtres humains le règne à tout jamais. Et ça, c'est pourquoi les nourrissons font peur aux ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que le babillage de petit Samuel suscite la crainte, parce que Dieu a déjà donné à ce petit la couronne, l'honneur de dominer sur tout pour Dieu. Et Dieu va certainement accomplir sa promesse. Ça, c'est pourquoi tout ce qui s'oppose à Dieu et à son plan y aura, verset 4, le silence, plutôt la ruine. Est-ce que nous nous demandons donc parfois, dans le silence, quand vous vous couchez le soir, quand vous êtes seul, quand les choses se passent très mal, dans la souffrance, mais c'est quoi la vie? Pourquoi j'existe? Si c'est le cas pour vous, écoutons bien la leçon du psaume 8. On a été créé pour une très bonne raison, par un créateur généreux, malgré notre petitesse. Il nous a mis juste en dessous de lui. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il est tellement généreux. On a été créé pour servir ce créateur généreux. Une place primordiale dans l'univers, et cela pour toujours. Alors, quelle tristesse, n'est-ce pas? Pour ces 89% de jeunes Européens. Quelle tristesse pour nous, dans cette salle ici. Si nous passons toute notre vie, on peut dire même toute l'éternité, sans avoir compris le sens de la vie dans le plan de Dieu. Si c'est le cas pour nous ce matin, c'est le moment de revenir. Revenons tous ensemble au vrai sens de la vie. Et pourtant, on a l'impression ici que ce psaume est en train de dire plus que cela, n'est-ce pas, que parler de ce monde. Ça doit être en train de parler de ce monde. Car David, l'auteur, il n'est pas bête. Ce que Dieu avait promis au premier homme, à Adam, c'était il y a longtemps, n'est-ce pas? Avant, notamment, la rébellion des hommes. Notamment avant la chute. Alors, lire ici, verset 7. Tout a été mis sous les pieds des hommes. ce psaume sont pas donné l'impression que tout est maintenant tranquille, tout est paisible, réglé, ordonné. Mais est-ce vraiment le cas? Quand nous verrons demain matin les journaux, vous écoutez les nouvelles à la radio dans la voiture en allant au travail, nous allons entendre sans doute à propos des guerres, de la mort, de la maladie, des feux qui dévorent l'Australie, de la corruption, de la famine, de la pauvreté, de l'état de notre planète. Comment est-ce que ce psaume 8 s'accorde avec la réalité dans laquelle nous vivons ensemble? Lorsque nous lisons le psaume 8, nous sommes censés dire, mais est-ce que cet auteur n'est-il pas en train de vivre sur une autre planète? Et la réponse, c'est en quelque sorte, oui. Ce psaume est à la fois un rappel de ce que Dieu a promis au commencement et un rappel de ce que Dieu va accomplir dans l'avenir. Nous allons voir ça ensemble. C'est notre troisième et dernier point sur vos feuilles. Le deuxième homme qui est descendu pour préparer l'humanité pour le monde à venir. Le deuxième homme qui est descendu pour préparer l'humanité pour le monde à venir. Si vous voulez bien, merci de tourner ensemble à notre dernier texte dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, et Hébreux chapitre 2. Ça, c'est à la page 1204 dans les Bibles sur vos chaises. Ça, c'est Hébreux chapitre 2. Est-ce qu'il y a moyen d'afficher ces versets-ci? Non, c'est pas possible. Pas de souci. Hébreux chapitre 2, page 1204. Et on trouve dans ce chapitre le psaume 8. Est-ce que vous voyez cela? Au verset 6 de chapitre 2. On trouve la citation du psaume 8. Mais écoutons ensemble comment, apprenons comment l'auteur aux Hébreux comprend ce psaume 8. Au verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. L'auteur comprend très bien, il n'est pas naïf. Il voit le problème entre le message du psaume 8 et la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, il voit plutôt ce que Dieu est en train de promettre dans le psaume 8. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. L'auteur estime que ce psaume parle d'un monde à venir. Et c'est même explicite au verset 5 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 5. Il mentionne, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir dont nous parlons. Est-ce que vous avez bien capté ça? Le psaume 8 est en train de nous rappeler que ce monde-ci, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin des choses. Parce que Dieu sera fidèle à sa promesse faite à l'humanité. Comment? Mais il va instaurer un nouveau monde. Où, dans ce nouveau monde, tout sera enfin soumis à l'humanité. Le psaume 8 tire notre attention vers l'avenir, vers un monde glorieux. Mais comment est-ce que Dieu peut faire ça? Comment est-ce que c'est possible pour nous, les êtres humains, qui ne sont pas dignes de régner? Toute l'humanité, dit la Bible, s'est rébellée contre Dieu. Quel homme pourrait régner parfaitement? Ou pourrait créer une nouvelle humanité, en quelque sorte, qui vit dans l'obéissance à Dieu. L'auteur dit que c'est seulement si un deuxième homme, un deuxième Adam, si vous voulez, descend des cieux. En gros, si Dieu devient homme, c'est la seule solution possible. Un homme divin et obéissant qui pourrait régner pour Dieu. qui peut à la fois sauver l'humanité et créer, instaurer une nouvelle humanité pour le monde à venir. Nous lisons au verset 9, lisons ensemble le verset 9. « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » C'est frappant, n'est-ce pas, de voir l'auteur aux Hébreux constate déjà dans le psaume 8 la solution au problème. Le psaume 8 parle d'un homme que Dieu fait habiter en dessous de lui pour un peu de temps, qui descend. Et ce psaume semble parler du moment où le Fils de Dieu est descendu. À Noël, le Créateur devient comme la créature. Habité parmi nous, Emmanuel, pour un peu de temps. Sa mission, c'était la fin du verset 9, de goûter la mort pour tous. Car Jésus a pris à la croix toute la punition que nous méritons pour nos fautes, pour notre rébellion. Et ensuite, Dieu l'a élevé et l'a couronné de gloire et d'honneur dans le vrai sens, lui donnant la place ultime dans l'univers en tant que Seigneur. En lui, nous lisons ici verset 10 de Hébreux 2. Que ce sauveur élevé conduit à la gloire beaucoup de fils. Notre sauveur élevé conduit maintenant, aujourd'hui, beaucoup de fils à la gloire du monde à venir. Est-ce que nous voyons, Dieu va accomplir ce qu'il a promis au commencement. Et il fait cela seulement à travers Jésus-Christ, Dieu dans la mangeoire. Le psaume 8 nous pose une grande question alors, ce matin, en terminant. Est-ce que nous avons trouvé le sens de nos vies? Pourquoi est-ce que nous levons le matin? Est-ce que pour le sport? Pour les fêtes? Pour les examens? Pour le travail? L'argent? Le plaisir? La famille même? Ou est-ce que c'est juste par habitude, car il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui? Voici psaume 8. Pourquoi nous sommes créés? Pour servir notre Créateur généreux. Mais il faut aller plus loin que ça ce matin, n'est-ce pas? Car il y a une décision tellement importante pour prendre par rapport au monde à venir. La question c'est, est-ce que nous allons faire partie de ce monde à venir ou non? Car il y a un seul moyen d'y accéder, dit la Bible, au vrai sens de la Bible, où tout le plan de Dieu se réalise, d'être un fils de Dieu qui règne dans le monde à venir et vivre les réalités du psaume 8. Si seulement nous plaçons notre confiance en lui, le deuxième homme qui est descendu pour goûter la mort à notre place. Est-ce que nous nous confions en lui, le deuxième homme, obéissant? Est-ce que ça c'est nous? Est-ce que nous verrons la colère de Dieu? Ou est-ce que nous allons faire partie de ce nouveau monde et régner avec le Fils de Dieu? Si nous sommes déjà confiants en Jésus-Christ, la question brûlante ce matin, c'est est-ce que nous, honnêtement, nous regardons vers l'avenir? Est-ce que nous sommes plutôt trouvons notre identité ici, dans ce monde-ci, ou dans le monde à venir? C'est surprenant de poser une telle question, n'est-ce pas? Parce que si un tel monde, comme le psaume 8, existe, et c'est sûr et certain, je pense qu'on réfléchit beaucoup à ce monde-là, n'est-ce pas? Un monde où nous allons servir notre Créateur parfaitement, dans la joie ultime. Nous allons passer des millions d'années sans fin, à l'image de Jésus-Christ. Ce monde à venir est certain. Jésus a déjà goûté la mort pour tout être humain. Il est déjà couronné à la droite de Dieu. Est-ce que ce monde à venir figure dans nos pensées? Et enfin, est-ce que nous allons parler aux gens? Faire en sorte que les habitants de Louvain-la-Neuve, de Bruxelles, que les habitants soient prêts pour ce monde à venir par la foi en Jésus-Christ seul. Que Dieu nous aide, que son nom est magnifique sur toute la terre. Prions ensemble pour terminer. Merci, notre Père, Créateur de toutes choses. Merci d'avoir pensé à nous, faibles créatures, pécheurs que nous sommes. Merci pour ce privilège immense de régner sur la création que toi, tu as formée. Merci surtout pour Jésus, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, pour prendre sur lui notre châtiment. Que tu nous aides à garder nos yeux fixés sur ce monde à venir, ce monde si certain. Et que tu nous donnes les occasions pour le faire connaître, ici à Woluwe, à Bruxelles, et à Louvain-la-Neuve également, à ceux que tu as placés autour de nous. Nous te prions pour ta gloire. Amen.